Radio Campus Paris.
Est-ce que tu peux me dire qui est Pierre Laurent ?
Je n'en ai aucune idée.
Je sais pas du tout.
Absolument pas.
C'est pas un nom qui me dit quoi que ce soit. Pierre Laurent, je vois pas.
Je pense qu'il est moins médiatisé ou un truc comme ça, mais je connais même pas de nom, je dois dire. C'est qui ?
Secrétaire national du Parti communiste.
Pierre Laurent est le candidat du Parti communiste français pour les élections régionales en Île-de-France et secrétaire général du Parti communiste français.
Dans le flux médiatique qu'on a en ce moment, je pense qu'on doit tous être capables d'appeler tous les dignitaires du FN par leur prénom. Mais par contre, le Parti communiste, médiatiquement, il est très peu visible, donc j'en ai vraiment jamais entendu parler.
Le Parti communiste français, ça t'évoque quoi ?
Ça m'évoque Mélenchon.
Mélenchon !
Bah Jean-Luc.
L'extrême gauche, enfin gauche, mais après bon...
Ça m'évoque les gens qui donnent des tracts devant la fac.
Le Parti communiste, ça m'évoque la Russie, mais pas la France.
C'est vieux, dépassé et inutile.
Un parti qui mériterait qu'on entende plus souvent ce qu'il dit.
Plus trop parler d'eux, ils font pas des trop gros chiffres.
Après, je sais qu'au niveau local, ils sont assez présents dans certaines communes.
Ce que ça m'évoque, à part ça, je sais pas, la 6ème République.
Qui est de bonne volonté, mais qui a peut-être pas les solutions pour eux maintenant.
J-10 avant le premier tour des élections régionales le 6 décembre prochain. Je le disais en introduction, ce soir, nous recevons dans la matinale Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et tête de liste pour le Front de gauche en Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors à mes côtés également, Loïc de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir à toi Loïc.
Bonsoir Alban.
Alors Pierre Laurent, vous avez, petit historique pour commencer rapidement, vous avez commencé votre engagement en tant qu'étudiant, ça tombe bien, puisqu'on est à Campus Paris. Vous avez milité à l'Union des étudiants communistes durant vos études, puis diplôme en poche, vous devenez journaliste pour le journal L'Humanité. Alors d'abord journaliste économique, vous devenez ensuite rédacteur en chef du quotidien en 99, puis directeur de la rédaction en 2000. Vous vous impliquez ensuite, on y arrive, au Parti communiste. En 2009, vous êtes le principal rédacteur du texte adopté par le congrès du parti. Et en juin 2016, vous succédez à Marie-Georges Buffet comme secrétaire national du Parti communiste. Je précise qu'en 2013, vous êtes réélu avec 100% des voix, un score stalinien, mais il faut dire qu'il n'y avait pas de liste concurrente. Vous cumulez aujourd'hui, pour en arriver au présent, trois casquettes, si j'ose dire. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, je le disais à l'instant. Vous êtes aussi sénateur, sénateur de Paris, et conseiller régional d'Île-de-France. Ce qui fait beaucoup, vous en conviendrez, mais enfin au Parlement régional, d'après France TV Info, vous avez un taux de présence de 100%. Donc félicitations, ça mériterait d'être noté. Alors Pierre Laurent, ma première question est assez simple. Vous êtes tête de liste, pas pour le Parti communiste, mais pour le Front de gauche. Alors pour ceux qui nous écouteraient, qui ne comprendraient pas cette idée du Front de gauche, c'est quoi exactement ?
Le Front de gauche a été créé en 2009 pour les premières élections européennes, puis les élections régionales déjà de 2010. Je conduisais d'ailleurs la liste en Île-de-France à l'époque.
Vous avez été élu.
Et
d'ailleurs.
Donc c'est là que j'ai été élu. C'était mon premier mandat électif d'ailleurs, parce que comme vous l'avez dit, ma vie a été essentiellement avant une vie de journaliste professionnel. Et je n'ai eu un mandat électif qu'à l'occasion des élections régionales de 2010. Le Front de gauche réunit le Parti communiste, le parti de gauche, qui est une formation qu'a présidé pendant plusieurs années Jean-Luc Mélenchon. Également, au départ, une autre formation qui s'appelait la gauche unitaire, et puis maintenant une formation qui s'appelle Ensemble. Donc toute une série de République et Socialisme, disons des gens de gauche venus de cultures politiques différentes du Parti communiste. Certains sont sortis du Parti socialiste, de formations d'extrême gauche, pour travailler ensemble. En fait, à la reconstruction, c'est comme ça que nous le voyons, nous, à la reconstruction d'un nouveau projet à gauche et d'un projet, à nos yeux, à vocation majoritaire. Et je pense que la situation actuelle de la gauche va rendre plus actuelle et aiguë que jamais ce besoin-là. Donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous.
Oui, alors on ne va pas s'attarder là-dessus, mais enfin, cela dit, il y a quand même eu des... Si j'en parle, c'est parce qu'il y a eu des tensions aussi au moment du lancement de votre liste régionale en Île-de-France. Est-ce que vous avez réussi à suffisamment rassembler ? Et est-ce que pour vous, c'est assez visible pour les citoyens, cette grand assemblage de partis ?
C'est jamais assez visible, mais en tout cas, les débats qu'il y a eu sur la constitution de la liste se sont effectivement totalement... totalement réglé. Et nous avons abouti à une conduite très collective de la liste. C'était d'ailleurs la proposition que j'avais faite dès le début. Nous conduisons la liste avec un trio et donc ma compagne dans ce trio.
Vous êtes trois sur les affiches d'ailleurs, voilà, qu'on voit un peu partout en Île-de-France. On est trois dans toutes les affiches,
voilà, avec Éric Coquerel qui conduit la liste départementale de Paris et qui est un représentant du parti de gauche, et Clémentine Autain qui conduit la liste départementale de Seine-Saint-Denis et qui est une représentante, la porte-parole nationale d'ensemble. Mais il y a sur notre liste, je l'ai dit, encore d'autres diversités et puis des collectifs citoyens qui ne sont pas engagés dans un des partis du Front de gauche, mais qui ont voulu participer avec nous à cette campagne.
Mmh. Loïc.
Alors, on va bien sûr parler des mesures que vous proposez pour la région, mais la campagne s'est fortement nationalisée depuis les attentats de Paris. 53% des c'est un thème majeur pour 53% des Français et des Franciliens interrogés dans un sondage Odoxa pour Le Parisien. Le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois, c'est une mesure que vous soutenez ?
C'est une mesure qui a fait débat chez nous. Nous avons soutenu, approuvé la déclaration d'état d'urgence juste après les attentats parce que nous étions dans une situation très, très, très grave et à laquelle il fallait faire face en mettant en place tous les moyens de sécurité nécessaires, y compris pour empêcher la répétition de tels attentats. Et on a vu l'intervention à Saint-Denis qui a justement empêché un nouvel attentat. Donc c'était nécessaire. La prolongation de l'état d'urgence était sûrement nécessaire, peut-être et sûrement pas à nos yeux de 3 mois directement. On aurait préféré, nous, mettre cette reconduction sous contrôle du Parlement, peut-être avec des périodes plus courtes.
De semaine en semaine, il aurait fallu le renouveler.
On a obtenu, d'ailleurs, dans la discussion sur le vote de la loi de la prolongation de l'état d'urgence, qu'il y ait un contrôle parlementaire hebdomadaire. Parce que l'état d'urgence pose des problèmes de garantie des libertés publiques fondamentales. Et c'est pas un état, c'est un état qui par définition est exceptionnel et à nos yeux qui ne doit pas se prolonger et sûrement pas, puisque c'est le débat qu'a ouvert le président de la République, nous ne sommes pas favorables à l'inscription durable dans la Constitution d'un régime d'exception de ce type, parce qu'on pense que ça ouvrirait à des dangers pour le maintien dans la durée, la préservation des libertés publiques fondamentales. Or, résister à Daesh, c'est aussi ne pas céder à l'engrenage de la guerre et de la suspension des libertés publiques. Il faut au contraire protéger la République.
Le président de la République a encouragé tous les Français à mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à leur fenêtre. Est-ce que vous allez suivre cette demande du président de la République ?
Non,
on s'adresse au secrétaire national du Parti communiste.
Non, je ne mettrai pas de drapeau bleu, blanc, rouge pour une raison simple, c'est que j'en ai pas à la maison.
Vous n'êtes pas favorable à ces grands symboles ?
Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai milité depuis longtemps et grandi dans un parti communiste. Et dans les meetings du Parti communiste, et j'ai toujours connu ça, y compris quand j'étais enfant, on chante systématiquement 2 chansons à la fin, qui sont la Marseillaise et l'Internationale. Et la tradition du Parti communiste, depuis très longtemps, depuis le Front populaire avant la guerre en 1936, la tradition historique du Parti communiste est de toujours mêler son engagement national et international. Vous savez ce que disait... Ce que disait Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup en rapproche. Je ne découvre pas la Marseillaise. Je la chante depuis mon enfance dans les meetings aux côtés de l'international.
D'accord, mais vous ne mettrez pas donc le drapeau français à votre fenêtre.
Mais demain, j'ai pas de drapeau, j'en mettrai pas. Et j'ai pas besoin de. Je ne crois pas que l'affirmation nationale passe par. Des opérations symboliques de cette nature. Je pense qu'il y a des choses plus profondes qui doivent nous unir et qui sont les valeurs.
D'accord. Les valeurs. Alors parlons maintenant de votre programme avec Loïc.
En cherchant votre programme hier soir, je dois vous avouer que j'ai un petit peu eu du mal parce que je suis allé sur votre blog, je n'ai pas trouvé de lien. Je suis allé sur celui de Clémentine Autain, rien non plus, Éric Coquerel, sur le site du PC. Bref, je suis passé un peu partout.
Et pourtant, Loïc est plutôt un bon chercheur d'habitude.
Il y a un site, justement,
Novi d'abord.
Bon, voilà. Il faut le savoir pour les auditeurs qui veulent le trouver. Et puis on mettra un lien évidemment sur le site de Radio Campus Paris. Donc Novi d'abord, donc j'ai finalement trouvé votre programme que j'ai lu très attentivement, et on trouve beaucoup de témoignages, d'idées, L'idée pour vous, c'était de partir du vécu concret des gens, d'où le slogan « Nos vies d'abord ».
Oui, absolument. La région, c'est quelque chose, en vérité, qui paraît très éloigné comme ça, mais qui est très concret, puisque la région s'occupe de toutes les, de tous les transports en Île-de-France. Et les transports, c'est la vie quotidienne en Île-de-France. S'occupe du logement, s'occupe de tout un tas de politiques publiques qui sont... s'occupe du monde universitaire, s'occupe de la politique dans les... Enfin, s'occupe des lycées. Voilà, des choses concrètes. Donc, on a voulu, nous, effectivement, construire un programme qui décline dans ces domaines beaucoup de propositions concrètes. Et la liste aussi est constituée de gens qui sont non pas des, comme on croit souvent, parce que la télé parle comme ça, alors que ça n'a rien à voir, comme des professionnels de la politique, mais des gens engagés dans la vie locale, associative et syndicale de l'Île-de-France.
D'accord. Alors parlons de concret, justement. Prenons la question du logement. Tous les candidats proposent des mesures pour le logement, mais au jeu des chiffres, c'est vous le gagnant. Vous proposez la construction de 100 000 nouveaux logements par an, dont 50 000 logements sociaux. Alors, la majorité actuelle n'a pas réussi à construire 70 000 logements par an. Vous proposez 100 000, c'est pas un peu démagogique ?
Non, pas du tout. D'abord, ça correspond à un vrai besoin et c'est le oui, seul moyen
qu'on a. Ça, on est d'accord, mais ouais. Comment vous faites concrètement ?
Mais par exemple, on sait que ce qui empêche la construction de logements, c'est le manque de terrains disponibles. Pourquoi ? Parce qu'un très grand nombre de villes en Île-de-France se protègent du logement social, ne veulent pas en construire sur leur territoire, malgré la loi qui impose de faire au moins 20 à 25% de logement social sur ton territoire.
Beaucoup de maires refusent notamment de valider les permis de construire concrètement sur le terrain. Donc quoi, vous voulez expliquer à ces maires-là qu'il faut, ces maires
oui,
de droite,
pas seulement, souvent, pas seulement qu'il faut changer de, pas seulement d'avis. Expliquer. Par exemple, nous pensons qu'il faut que la région change l'attribution, ne verse pas les mêmes aides publiques aux villes qui font l'effort de construire les logements nécessaires et celles qui ne le font pas. C'est pas normal que la région aide de la même manière la construction d'une crèche à Maison Lafitte qui refuse de construire le moindre logement social sur son territoire et des villes comme Aubervilliers, comme je sais pas, des villes du Val-de-Marne.
Donc il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi.
Oui, il faut sanctionner parce qu'il y a une loi, elle n'est pas respectée par un certain nombre de villes. Il faut donc en tirer les conséquences et discriminer un peu les politiques publiques pour qu'elles soient plus efficaces.
C'est-à-dire en faisant des sanctions pour les maires, en
donnant pas les mêmes subventions aux lois qui ne respectent pas la loi SRU et celles qui la respectent.
Ah, Pierre-Laure, on va continuer à parler de votre programme pour les régionales dans un instant, mais tout de suite on fait une petite pause musicale. We'll be right back. Vous écoutiez à l'instant Brazil de Declan McKenna.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours, vous êtes toujours sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on parle toujours des élections régionales avec monsieur Laurent, secrétaire national du Parti communiste et tête de liste pour le Front de gauche en Ile-de-France. Avec moi toujours aussi en studio, Loïc de la rédaction de Campus Paris. Monsieur Laurent, j'aimerais parler avec vous maintenant transport. Hein. On avait commencé à parler du concret, de votre programme, des mesures que vous proposez. Alors vous avez une proposition qui est d'apparence très simple et qui va probablement pas mal plaire. Vous proposez un pass Navigo gratuit pour les jeunes et un pass à 35 euros pour les seniors. Ma question assez simple, c'est vous le financez comment ?
Ouais, vous savez, d'abord, petit retour en arrière, on s'est battu pendant 5 ans pour obtenir un pass Navigo à tarif unique sur l'Île-de-France. Tout le monde nous disait que c'était impossible, que c'était pas finançable, qu'on trouverait jamais l'argent, etc. On a convaincu que ça pouvait être financé par, puisque c'est entré en vigueur le 1er septembre dernier.
Et finalement, le gouvernement régional l'a fait passer.
Et l'a fait passer, et en faisant voter une loi au Parlement, puisqu'il fallait augmenter, c'est comme ça qu'on l'a financé, le versement transport des entreprises, ce qui fait que ce pass Navigo peut être remboursé pour tous les salariés. Donc pass Navigo à 70 euros, qui ne coûte que 35 euros aux salariés, puisque l'entreprise rembourse la moitié. Et aussi, on a étendu cette disposition après beaucoup de débats, mais on l'a finalement étendu au dispositif de la carte imaginaire pour que les jeunes aussi en bénéficient. Mm-hmm. Nous, on pense qu'il
faut
progresser.
Plus loin que ça,
oui, il faut aller plus loin. Pourquoi ? Parce que si on veut relever les défis du droit à la mobilité dans l'Île-de-France et le défi écologique, il faut continuer d'encourager les transports publics. Donc il faut agir dans deux domaines. Il faut plus d'infrastructures de transport public. Il faut des nouveaux métros, il faut plus de bus pour densifier le réseau. Il y a des investissements importants qui ont été décidés, mais il faut les maintenir, il faut les amplifier. Il y a beaucoup de modernisation des réseaux de transport. Et puis, il faut des politiques tarifaires qui vont encourager les gens à utiliser les transports publics. D'ailleurs, dans quelques jours, là, il va y avoir la COP21. Quand on veut que tout le monde laisse sa voiture et encourage les transports, qu'est-ce qu'on fait ? On rend les transports gratuits. Donc nous, on dit la jeunesse qui a des difficultés, a des moyens, pas toujours les moyens de vivre. Déjà, pour étudier, il faut très souvent maintenant travailler. Les loyers sont élevés, il n'y a pas assez de logements étudiants. On propose d'en construire 50 000. Nous, au passage, je le dis. Il faut donc des mesures et encourager l'utilisation des transports publics par la jeunesse.
Qu'est-ce que vous entendez par jeunesse d'ailleurs ? C'est les moins de 18 ans ?
Alors, dans un premier temps, on propose de rendre gratuit, nous, dans notre programme, pour les moins de 18 ans et pour progressivement avancer vers cette gratuité pour les moins de 25 ans. Mais il faut le faire, effectivement, parce que, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, nous sommes des gens réalistes, donc on regarde combien ça coûte. On ne pourra pas tout faire d'un coup. Donc, comme à chaque fois, il faut trouver plusieurs dizaines, ça dépend des mesures, ou plusieurs centaines de millions d'euros, eh bien, il faut y aller progressivement. Mais au total, on s'y retrouve. Parce que l'usage des transports, c'est beaucoup d'économies, y compris dans les gâchis humains et dans les gens qui s'épuisent dans les transports en voiture. Puis c'est des gains écologiques.
On va continuer à parler
du
transport, Pierre-Laurent, mais j'aimerais quand même vous parler un petit peu du financement. Parce que pour financer cette mesure-là et d'autres que vous proposez, vous évoquez quand même des pistes, mais principalement en fait, des taxes nouvelles. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à accepter des nouvelles taxes ?
Non, mais les taxes en question, je le répète, c'est l'augmentation. Parce qu'on peut aller un peu plus loin sur l'augmentation du versement transport des entreprises, notamment dans l'Ouest parisien. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises qui peuvent un peu plus contribuer à l'effort collectif. On propose aussi des taxes sur les parkings des grandes zones de bureaux et des grands centres commerciaux. Pourquoi ? Parce que ces zones-là profitent, obligent les gens à utiliser les transports. On concentre des grandes zones de bureaux et de commerce, etc. Et elles ne contribuent pas au financement des transports. Donc il y a quelque chose d'anormal. Et nous, on pense qu'il faut étendre la participation de ces de ces grandes zones de bureaux et de grands centres commerciaux au financement des transports.
D'accord, donc des taxes notamment sur les logements vacants, sur les bureaux vides et les parkings de centres commerciaux, vous l'avez dit. Et alors vous pariez aussi sur de l'argent que l'État devrait à la région. Vous évoquez 1,7 milliard d'euros pour des transferts de compétences qui n'auraient pas été compensés. C'est pas un peu hypothétique de compter sur cette somme-là ?
Bah, ça, c'est une bataille parce qu'effectivement, il faut obtenir que l'État compense les transferts de compétences. Sinon, on va vers un appauvrissement des politiques publiques. Le président de la République, après les attentats, vient de dire qu'il faut que le pacte de sécurité soit supérieur au pacte de stabilité budgétaire. Ça veut bien dire que les politiques d'austérité, en matière de sécurité par exemple, eh bien, elles sont un frein à répondre à la demande sociale, en l'occurrence la demande sociale de sécurité. Mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire sauter un certain nombre de verrous budgétaires et il faut aller chercher l'argent, non pas pour faire exploser la dette, comme on nous le fait croire, mais il faut aller chercher l'argent autrement et il faut rediriger une partie de la richesse qui existe dans les entreprises vers le bien public. Vous savez qu'en Île-de-France, le budget de la région Île-de-France, au total, c'est 5 milliards d'euros, mais les richesses créées dans l'Île-de-France, c'est 600 milliards d'euros. Donc moi, comme je dis souvent, si on mobilise 1% de la richesse créé dans la région chaque année, on double le budget de la région Île-de-France. C'est là qu'il est le problème. C'est de ça dont il faut qu'on discute.
Donc
il y a
700 fiscalité.
Milliards d'euros de dépôts bancaires dans les banques en Île-de-France. Il faut mobiliser une partie de cet argent vers l'action publique nécessaire.
Alors la question de la sécurité dans les transports est omniprésente depuis le début de la campagne, mais en lisant votre programme, j'ai pas très bien compris quelles étaient vos propositions en matière justement de sécurité, notamment dans les transports.
Notre proposition majeure, elle est simple, c'est la présence humaine. Nous pensons que le gros problème de sécurité, c'est le manque d'effectifs. Nous proposons de créer 10 000 emplois dans les transports en Île-de-France, pas seulement à cause des problèmes de sécurité. Il y a aussi des problèmes de maintenance du matériel, y compris pour conduire le matériel. Vous savez qu'il y a des lignes de bus qui sont budgétées par le syndicat des transports en Île-de-France qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs de bus embauchés par la RATP. Donc, au total, on propose de créer 10 000 emplois, mais une partie de ces emplois doivent être des emplois pour la présence humaine dans les gares. Il y a plein de gares en Île-de-France. À partir de 18 heures, il n'y a plus un chat. Enfin, il y a des gens qui les utilisent et qui les traversent, mais il n'y a plus un employé, il n'y a plus personne, les guichets sont fermés, etc. Donc, renforcer la présence humaine sur le réseau, c'est la meilleure des sécurités.
Et une fois encore, comment que vous financerez ces 10 000 embauches supplémentaires ?
Bien, avec les mesures dont on a parlé précédemment, vous savez, on a chiffré toutes ces mesures et elles permettent largement de financer les différentes mesures qui sont dans le programme.
Une mesure originelle, vous proposez l'interdiction des images sexistes dans l'espace public, y compris dans le métro.
Ça, vous êtes le seul. Hein, de tous ceux qu'on a reçus, vous êtes le seul.
Comment est-ce que vous jugez de leur caractère sexiste ? Est-ce que vous mettez en place une autorité capable de réguler l'affichage ?
Oui, il faudrait probablement créer des choses nouvelles de ce point de vue-là. Il y a des bureaux de vérification de la publicité, des choses comme ça,
mais qui ne se préoccupent pas beaucoup
de ça. Et si on veut faire reculer, on était il y a quelques jours dans la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, on sait que faire reculer ces violences, c'est aussi travailler sur les consciences. Et donc, c'est un travail éducatif qui doit démarrer dès l'école. D'ailleurs, il faut des politiques de lutte contre les stéréotypes sexistes à l'école, et dès l'école maternelle, à l'école primaire.
Donc, travail d'éducation, mais dans le métro
aussi
dans l'espace public.
Dans l'espace public.
Un peu comme à Grenoble, par exemple, d'avoir moins de publicité dans la rue.
D'abord, moins de publicité en général, mais surtout, on peut agir sur le contenu de ces publicités. On peut utiliser une partie aussi de l'affichage public pour faire des campagnes d'information contre le harcèlement qui existe et dont témoignent d'ailleurs tout un tas d'associations qui se battent contre ça.
Parce et là, je reviens à la question de Louis. Comment est-ce que vous déterminez le caractère discriminant ou sexiste ?
Mais on peut le faire avec les associations. Il y a beaucoup d'associations féministes qui travaillent sur ces questions. On peut mener des campagnes d'information auprès des usagers des transports pour savoir ce que les femmes en particulier, mais pas seulement, les jeunes d'une manière générale et les hommes aussi jugent justement inacceptable dans ça. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient ainsi être définies. Mais puisqu'il y a beaucoup d'affichage, ça peut devenir, les transports peuvent devenir un lieu d'éducation populaire plutôt que d'être un lieu de voué au culte de la marchandise en toutes circonstances.
Mmh. Alors Pierre-Laurent, lors des dernières élections régionales, parlons un petit peu de prospective et de stratégie politique. Vous avez fait 6%, aujourd'hui les sondages vous donnent 8%. C'est quoi votre objectif aujourd'hui? Vous voulez faire deux chiffres, c'est ça que
vous... Oui, bien sûr, il faut aller au-delà de ça. Pourquoi? Et j'ai envie de dire encore plus après ce qui vient de se passer. Parce que à la barbarie, à la terreur, à l'effroi des attentats, il faut opposer, au contraire, une République fraternelle, solidaire. Donc il faut absolument mettre à la tête de la région, pas des gens qui vont prôner la discrimination, inciter au racisme, voilà, entretenir un climat de défiance, mais il faut construire de la solidarité. D'accord. Ça passe par des politiques publiques.
Mais un objectif à deux chiffres, donc.
Oui, bien sûr, un objectif à deux chiffres, parce qu'il faut que notre poids soit largement, très largement renforcé dans la région si on veut garantir ces politiques publiques de gauche.
D'accord. Une dernière question, Loïc.
Alors, en lisant votre programme, j'ai trouvé une phrase. Le gouvernement se réclame de gauche, mais tourne le dos à ses principes. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas soutenir Claude Barthelone au deuxième tour si vous n'avez pas 10% des voix?
Non, ça veut dire que... vous savez, là-dessus, j'ai été à plusieurs reprises très clair. Moi, je ne veux pas de la droite et adossée à l'extrême droite à la tête de la région. Valérie Pécresse était conseillère régionale comme moi. Quand j'ai tenté de faire avancer toute une série de mesures sociales, je l'ai toujours eu en face de moi. Donc, je n'ai pas envie que la droite prenne les rênes de la région. Donc, il n'y a aucune liste de gauche qui peut gagner toute seule la région. Aucune. Donc, si nous sommes dans la situation de vouloir battre la droite et l'extrême droite, il faudra travailler à la fusion de ces listes. Mais ça ne fera pas disparaître. Il ne s'agit pas de se rallier à une autre liste. Il s'agit de permettre une victoire. Il faudra le faire dans le respect du poids qu'auront obtenu chacune des listes. C'est pour ça que je dis que le poids qu'aura la nôtre au premier tour est décisif pour faire justement un second tour dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui, comme moi, sont attachés à des politiques publiques qui nécessiteront de faire reculer aussi l'austérité gouvernementale.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Laurent, d'être venu nous parler, d'être venu au micro de Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.